Il faut que je te retire de moi, la Bretagne. Que je t'arrache comme une grosse dent. Que je me fasse mal, essayant de m'oublier pour que tu vives. Sans moi. Sans moi qui ne peux plus te suivre, dès lors que je t'aime au présent. Que je t'ouvre comme un éventail, comme un ventre de bœuf, comme une huître. Et que par la grâce de cette effraction, un peu de ta vie même se jette au vent. Avec tes hommes et tes femmes, tes colères et tes langueurs, avec tes grands-mères, si nombreuses, qu'on pourrait croire que ce sont elles qui naissent ici chaque jour, tes vieilles à coiffe, oh ces coiffes les bigoudins, combien d'épingles pour les faire tenir ces gracieuses cheminées sur vos crânes, dans le pays le plus venteux, le plus plat du monde, dans le plus grand des courants d'air, avec cette coiffe suprême, le phare d'Ecmul érigé comme un sexe ami des pêcheurs qui lance sa bonne lumière dans le ventre ouvert de la nuit. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je vous souhaite la bienvenue sur Radio G chez Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères, de lundi par mois à 13h en semaine impair, mais aussi quand vous le désirez en podcast sur radio-g.fr. On se souviendra de nos grands-mères avec un ou une invitée. C'est fragile une grand-mère, on n'en a que deux. On les rencontre déjà vieilles. On ne connaît généralement qu'un petit morceau de leur vie qui est toujours plus grande que ça. Une grand-mère, c'est un prénom délavé, une peau douce et abîmée, une voix qui s'élève encore parfois. Pour Georges Perros, dont je viens de lire un extrait issu de ses poèmes bleus en exorde de cette émission, c'est une coiffe bretonne, bigoudin, synonyme de ce pays qu'il s'était choisi. On parlera certainement un peu de poésie et de Bretagne aussi avec notre invité du jour, que je suis ravi d'accueillir, Jackie Essirard, peintre, graveur, illustrateur, éditeur, écrivain, poète et aussi coprésident de la Miel 49, la Maison internationale des écritures et de littérature, une association locale qui diffuse joyeusement et dès que possible le virus de la poésie. Bonjour Jackie et merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de tes grands-mères et de leurs souvenirs.
Merci pour cette invitation. C'est toujours délicat de parler de ses grands-mères, surtout lorsqu'elles sont décédées. Voilà, donc je vais essayer de vous parler surtout de celle qui m'a élevé et puis ensuite de celle qui m'accordait ses vacances qu'elle n'avait pas. Voilà, donc pour commencer, mes grands-mères sont nées au début du XXe siècle. Elles ont connu les deux guerres. Elles étaient toutes les deux mariées. Elles avaient une vie plutôt rustique. Surtout celle de Bretagne. Ma grand-mère à Angers habitait rue de la Chaloire, à la place du 122, pour ceux qui connaissent le 122. Leur maison était là.
Devenue un lieu culturel. Voilà.
Ouais. C'est devenu un lieu culturel et moi je vois toujours un signe du destin. Donc c'était une vieille maison. Il y avait une cuisine, deux chambres en affilade et ensuite les dépendances où ma grand-mère tuait les lapins, les poules, les canards et préparait les betteraves dans un fourneau. Enfin bon, ma grand-mère était aussi maraîchère. Voilà. Et je pense qu'il faut que je l'associe quand même à mon grand-père, qui était aussi le noyau dur de la famille, puisque lui avait deux métiers. La nuit, il travaillait au Grand Moulin d'Angers, donc il était meunier, et le jour, il faisait son jardin. Le jardin qui faisait pas loin d'un hectare, je pense même peut-être plus qu'un hectare. Et aujourd'hui, il est construit, il y a un immeuble dessus. Quand je passe, je le regarde avec nostalgie, mais il reste quelques murs.
Et Jackie, est-ce que tu peux nous dire comment elle s'appelait cette grand-mère? Comment il s'appelait ce grand-père? C'était quoi leur prénom?
Alors, ma grand-mère à Angers s'appelait Ernestine, mon grand-père s'appelait Louis. Il était un peu plus vieux qu'elle, de 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Il est parti à la guerre en 1917. Donc, il en gardait un mauvais souvenir, mais il n'en parlait pas. Bon, quelques séquelles aussi, puisqu'il avait été gazé. Mais bon, c'était un bourreau de travail. Et dans la foulée, ma grand-mère était aussi un bourreau de travail.
Ernestine, elle allait vendre les fruits et légumes du jardin de Louis.
Voilà, on avait un jardin qui, pour moi, à cette époque, me paraissait immense. Il y avait un verger. Un verger, des poiriers, des pommiers, des cerisiers, des abricotiers. Enfin, il y avait toutes sortes d'arbres. Puis un jardin, plus tourné vers les légumes et les fleurs. Il y avait beaucoup de fleurs dans ce jardin. C'était vraiment, pour moi, c'était le paradis sur terre, ce jardin.
Ouais, c'était un petit endroit magique, ah, comme ça, dont ouais. prenaient soin tes grands-parents. Ouais. Et toi, tu as des souvenirs dans cet endroit, tu les vois travailler.
Ouais. Je vois cet endroit. Il était situé entre la rue de la Chaloire, donc, et le stade de la Vaillante, et de l'autre côté, la future cité du Vougaro, pour ceux qui connaissent le Vougaro. Et donc, le jardin de mes grands-parents était traversé par les enfants du Vougaro. Voilà, donc, j'avais plein de copains qui venaient... et qui traversaient le jardin, et bon, qui s'arrêtaient.
Ah, le jardin était aussi un lieu de passage.
C'était un lieu de passage pour pas mal de gens du Vougaro, des gens de mon âge, quoi.
Donc c'était aussi un lieu de rencontre pour toi.
Oui, oui. Là-dessus, mes grands-parents étaient très, très accueillants. Bon, il ne fallait pas marcher sur les plates-bandes, mais à part ça, ça allait.
Raconte-nous un petit peu, Ernestine, à quoi elle ressemblait, si tu devais la dessiner, nous la représenter, parle-nous d'elle un petit peu.
Pas très grande. Plutôt sèche, la peau mate, les cheveux très noirs, regard noir, portait des lunettes. Et elle était toujours habillée avec une blouse, sauf le dimanche éventuellement, mais bon, son costume.
L'habit de travail.
Ouais, c'était son costume normal, c'était la blouse. Mon grand-père disait qu'elle était toujours malade. Bon, c'était peut-être vrai, elle se plaignait beaucoup. Mais c'était des plaintes sans conséquence, finalement. C'était, je pense, un peu hypochondriaque. Mais bon, elle était rarement malade.
Et toi, tu te souviens d'elle comme ça, écouter son corps, parler de ses douleurs, ou c'est à travers ce que disait ton grand-père?
Non, c'était la visite du médecin, quand même, assez régulière. Bon, le médecin venait, bon, il l'auscultait, il repartait, et il disait non, il n'y a rien, quoi. Donc...
Elle avait ce souci-là
de sa santé. Alors, c'est vrai que bon, quand elle est devenue plus âgée et que mon grand-père était parti, elle a quand même eu pas mal de problèmes de santé, ce qui ne l'a pas empêché de vivre jusqu'à 97 ans.
Ta grand-mère, Ernestine, donc, qui a vécu tardivement, pour toi, c'était plutôt une tendresse ou une autorité ou un peu de ces deux choses-là à la fois, peut-être ?
Alors, mes grands-parents avaient eu... deux petits-enfants qui étaient décédés jeunes, dont un garçon. Et ensuite, ils ont eu deux filles. Et moi, j'étais le garçon d'une des filles de l'aîné. Donc, je crois qu'ils avaient un attachement particulier, puisque j'étais un garçon, qu'ils n'avaient pas eu. Et j'ai été élevé à temps complet, pratiquement chez eux, jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, mes parents travaillaient. Puis ensuite, mes parents ont déménagé et ont habité la cité du Vougaro. Donc, j'étais encore très, très près. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais... au moins à mi-temps chez mes grands-parents.
Oui, donc c'est beaucoup de temps passé avec eux, dans leur maison, auprès d'eux, sur des années où on a peut-être moins de souvenirs, non ? Toi, tu en as beaucoup de ces années-là, à vivre chez eux, avec eux, très près d'eux.
J'ai quelques souvenirs, oui, ça c'est clair. Bon, ma grand-mère, parce que je l'accompagnais sur les marchés, donc elle faisait le marché Saint-Michel. Et donc ça se passait le matin, mon grand-père allait porter... le matériel avec sa voiture, sur le marché Saint-Michel, il l'installait devant le bureau de tabac, à l'angle là où il y a maintenant les pompes funèbres. C'est à côté des pompes funèbres. Donc on était juste devant le bureau de tabac, et là, bon, je jouais au marchand, et c'était très très rigolo, parce que c'était tous les samedis pratiquement. En général, ça se terminait, parce qu'on allait rue Borou, il y avait un magasin de jouets, ça se terminait par l'achat d'une voiture ou d'un petit coureur ou d'un petit cow-boy.
Donc les samedis étaient un peu ritualisés comme voilà, ça. C'était une récréation pour toi d'aller faire le marché.
Oui. Puis bon, il y avait la récompense après, quoi. Bien sûr, j'étais pas payé, mais bon, j'avais ma petite voiture, mon petit coureur. Enfin, j'avais tout le matériel qu'il faut, quoi.
Et Ernestine, elle était comment en vendeuse de fruits et légumes comme ça, dans sa sociabilité avec les gens?
Elle était très connue surtout, parce que bon, c'était une permanente, quoi, quasiment de ce marché. Et elle était en tête de marché. Parce qu'à cette époque-là, ça descendait jusqu'à...
Elle avait sa réputation,
elle avait une
dans
réputation.
Le marché.
C'était bon. C'était bio. Il y avait de tout. Il y avait bon, des fleurs et des fruits, enfin, selon la saison.
Elle vendait des fleurs aussi.
Elle vendait beaucoup de fleurs. Dans son jardin, il y avait deux allées de dahlia, par exemple. Bon, il y avait tout. Il y avait des tulipes, il y avait tout. Enfin, c'était... Pour moi, c'est un jardin un peu magique.
Et ce jardin un peu magique, tu, euh,
Tu l'as retrouvé plus tard? Qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, tu nous as dit que cet endroit-là était devenu autre chose, mais est-ce que tu t'en souviens souvent? Est-ce que quand tu croises des dahlias, est-ce que cette pensée-là, elle est récurrente? Ce jardin t'accompagne souvent?
Oui, c'est dahlias, oui. Certaines fleurs m'accompagnent, les œillets aussi, parce que il y en avait une ribambelle, il y avait des roses, il y avait tout ça.
Et Ernestine, quand tu passais beaucoup de temps avec elle, comme ça, au marché, qu'est-ce qu'elle te racontait qu'est-ce qu'elle te disait est-ce que tu as souvenir d'histoire ou le soir est-ce qu'il y avait des petites histoires récurrentes, un dialogue?
Non, c'est bizarre parce que moi, je crois qu'elle est décédée sans vraiment me parler de sa famille. Donc, j'ai connu aussi mon arrière-grand-mère qui habitait chez ses enfants par séquence. Il la gardait, je crois, un mois, et ils étaient 8. Donc, ça revenait assez régulièrement, mais pas assez souvent. Je sais qu'elle était très chiante.
Ça peut être ça aussi, une grand-mère, des fois.
Ouais, elle était très chiante. Et quand c'était leur tour, effectivement, ça posait un petit peu des problèmes. Parce que, elle était vieille et pas en état de marche, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Mais elle n'a pas parlé de sa famille.
Il n'y a pas eu de transmission comme ça sur l'histoire de la famille.
Ce que j'ai appris de la famille, je l'ai appris bien après. Donc c'était une famille c'était une famille Buron. Donc ça, c'était des Burons qui étaient plutôt dans des fermes. Je crois qu'ils ont les arrière-grands-parents avaient été régisseurs du château du Plessis-Bourré, il me semble. Après, ils avaient acheté une grande ferme à la Bossière, entre Angers et la Méniane, qui est toujours pas dans la famille, puisque il y a eu des mariages et tout ça, mais qui est toujours cette ferme-là. Et là, j'ai des bons souvenirs aussi de cette ferme. Et puis, mon grand-père ne parlait pas beaucoup de sa famille non plus. Il avait travaillé très jeune. Et je me souviens d'être allé une fois à Fneux, chez cette arrière-grand-mère, qui était charmante. Mais quand on est gamin, il y a des choses qui nous échappent, quoi.
Oui, et puis oui, il y a eux où on peut se dire qu'ils n'avaient pas ce dialogue-là, mais toi, en tant qu'enfant, tu n'avais pas non plus cette curiosité qui est née certainement
plus tard. C'est né après. On n'a pas beaucoup d'archives non plus. Alors, ma grand-mère, c'était surtout préparer le café du matin, le rendez-vous du midi avec Raymond Souplex sur le banc et Zapimax. Tu vois, ça date. Et mon grand-père était là, forcément. Donc, c'était une bonne partie. D'ailleurs, en écoutant sur le banc, on était tous les trois, on était vraiment synchro, quoi. Et puis, l'après-midi, c'était l'école. Ou alors, le jeudi, c'était la journée festive. Et là, mon grand-père travaillait dans le jardin. Et il y avait une heure particulière. C'était l'heure de Rintintin. Je ne sais pas si tu connais Rintintin. Je criais Rintintin et il posait sa bêche et il arrivait et on regardait Rintintin ensemble. Voilà. Et le soir, ça se terminait par une partie de billard miniature ou une partie de cartes, une partie de bologne.
Oui, c'était les loisirs en commun avec tes grands-parents.
J'ai beaucoup partagé avec eux ces loisirs-là, quoi.
Donc, à quoi vous jouiez exactement? C'était quoi?
Aux cartes, belote,
Belote, il faut être quatre.
Ouais, mais non, ça rangeait.
On trouvait quelqu'un.
Et puis, on avait ce billard.
Il y avait un billard.
Il y avait un billard pour gamins. Il y avait. Qu'est-ce qu'on fait? Petit chou, tous ces jeux de classiques de l'époque, quoi. Il n'y avait pas de Game Boy.
Pas encore. Il y avait du sport?
Non, mon grand-père ne faisait pas de sport. Je crois qu'il en faisait assez la nuit et dans la journée. Donc, pour lui, il jouait au palais.
Ah,
il
le fameux palais.
Voilà. Donc, il essayait de me convertir au palais, mais il n'a jamais réussi.
Et toi, tu avais aussi du sport? Tu faisais du sport? Il t'emmenait au sport? Ou ce n'était pas forcément une activité aussi répandue qu'aujourd'hui pour les enfants?
Jusqu'à 10 ans, je n'ai pas fait de sport. J'ai commencé le judo, mais j'avais 14 ans, quoi. Donc, j'ai commencé à nager aussi à 14 ans. C'était un autre temps.
En tout cas, il n'y a pas eu de sport, mais tu as quand même prononcé le mot stade pendant l'émission. Je suis content quand tu as parlé de la proximité.
Ça fait partie de ma vie, ça, le stade, puisque j'étais en face. Donc, finalement, il y avait le centre aéré et c'était aussi une partie de ma vie, le centre aéré. Donc, à l'époque, il était géré par les abbés de la Brisse-Potière et les abbés de Saint-Serge. Mais là, bon, on retrouvait bon, effectivement tous les garçons et les filles du coin. On joue au foot, on joue au basket.
Oui, il y avait une manière de jouer un peu plus sauvage, entre guillemets, moins structurée qu'aujourd'hui dans les clubs. On est toujours sur Radio G dans l'émission Albertine avec Jackie et Sirard. On se souvient de ses grands-mères. Jackie, tu as eu un geste artistique, créatif. Tu es peintre, on l'a dit, poète, écrivain. Est-ce que ce goût-là est né à cette époque-là par tes grands-parents ou non ? Ça n'a rien à voir. Raconte-nous un petit peu ton lien à tout ça.
Alors, ma grand-mère était plutôt matérialiste, c'est-à-dire qu'il fallait assurer le gîte, le couvert. Je ne me souviens pas qu'il y avait beaucoup de livres à la maison. Il y avait nous deux, je crois qu'elle recevait nous deux.
C'est une revue.
C'est une revue. Donc,
ça me dit quelque chose, mais je ne vois pas ce que c'est. C'est quoi, nous deux ?
C'était une revue avec des romans photos.
Ah, d'accord.
Et puis, par contre, mon grand-père lisait. Alors, il lisait des espèces de petits opuscules, des histoires d'amour, bon, sur papier journal, des trucs assez courts. Mais bon, il lisait. Et il lisait surtout un livre, et ça m'a beaucoup marqué. Il lisait Robinson Crusoe, et il l'a lu au moins une dizaine de fois. Voilà, ça m'a toujours interrogé. Qu'est-ce qu'il trouvait dans ce livre ?
Tu savais que c'était un livre qu'il relisait sans cesse. Il t'en parlait, il te racontait un peu cette histoire ?
Ben non, parce que bon, à cet âge-là, je ne posais pas de questions. Quoi. Je ne voyais pas pourquoi il lisait ce livre. À la limite, bon, c'était presque drôle. Je sais que j'ai lu Poil de carotte, des choses comme ça, à cette époque-là.
Mais oui, toi, tu à cette époque-là, tu allais déjà vers le livre, même s'il n'était pas très présent ou non
ça s'est passé plus tard. Ça D'accord. s'est passé chez mes parents, puisque ma mère avait, elle, une petite bibliothèque. Bon, ma mère travaillait aussi beaucoup et elle n'avait pas beaucoup le temps de lire, mais elle avait une bibliothèque. Elle dirait c'est pour plus tard. Et donc là, il y avait tous les romans bon, de Tolstoï, Chateaubriand, enfin tout le monde était là. Quoi. Et puis il y avait la bibliothèque verte. Et moi, j'avais droit pratiquement tous les mois à un livre de Rouget Heure ou des choses comme ça. Quoi. Et donc là, j'ai commencé à lire sérieusement des choses bon, qui étaient pour mon âge. Quoi, mais pas...
Tu avais chez tes parents, oui. Donc après avoir habité au début de ta vie chez tes grands-parents, chez tes parents, tu as trouvé une matière lecture, littéraire. Tes parents avaient cette petite sensibilité-là, ta maman avait cette sensibilité.
Mon père pensait que c'était une perte de temps. Mais bon.
D'accord.
Mais ma mère était quand même attachée à ses livres.
C'est pour ça que tu es devenu artiste peut-être, pour aller contre le papa peut-être.
Non, alors si tu veux, mon trajectoire, c'était que bon, j'ai passé mon bac. Là, mes grands-parents étaient aux anges parce que j'étais le premier à passer mon bac et ma grand-mère m'a donné son Solex pour que je puisse aller à l'université. Tu vois.
Donc Ernestine ?
Oui,
d'accord.
Elle m'a donné son Solex.
Donc toi, tu as eu ton bac, elle t'a légué son Solex qu'elle utilisait, elle, pour ses courses.
Voilà. Et mon grand-père a pleuré. Donc, non, c'était quelque chose. Bon, c'était pas des gens pauvres, mais c'était quand même bon, des gens qui travaillaient beaucoup. C'était pas le... On n'était pas bourgeois, quoi.
Et puis oui, c'était une époque où la jeune personne pouvait travailler tôt, prendre un métier très tôt. Toi, tu es allé vers des études et ça les rendait très fiers.
Oui, ça, j'étais très heureux de ça. Donc après, j'ai perdu le fil.
Moi, j'ai envie de reparler de ce Solex, là. Le moment où elle t'a donné son Solex, tu t'y attendais ou c'est un moment dont tu te souviens ou...
J'avais déjà un vélo. Ouais. Mais bon, pour aller à l'université, c'était quand même beaucoup plus loin. Donc, bon, je crois qu'à cette époque-là, déjà, elle faisait beaucoup moins de Solex parce que c'était quand même un engin assez dangereux. Bon, je pense que ça lui a fait vraiment un grand plaisir de voir cette transmission. Je m'en suis servi très longtemps du Solex.
Ah oui, oui, oui. Et il est où cet objet aujourd'hui ?
Ah oui, il a disparu, oui. Ça fait partie des objets disparus.
Et ensuite, donc, dans ta vie d'étudiant, d'adulte, quelle relation tu avais avec Ernestine et Louis ? Comment ça se passait ?
Là, je me rends compte que j'ai été très égoïste. Voilà, c'est qu'en fait, moi, j'avais des liens très forts avec mes grands-parents angevins, juste pendant que j'y étais, quoi. Mais une fois passé l'adolescence, je me suis aperçu qu'eux donnaient, mais que moi, je donnais beaucoup moins. Que les relations étaient complètement différentes. Quoi. Et parce qu'on a notre vie. Et j'étais beaucoup plus ailleurs que dans la famille, par exemple. Donc, et là, bon, je m'en veux un peu. de ne pas avoir réussi à maintenir un lien plus fort. Bon, il n'y avait pas de grande discussion, on ne parlait pas de politique, on ne parlait pas de culture, on ne parlait pas de tout ça. Mais bon, il y avait une chaleur humaine, quoi. Et je n'ai pas su, peut-être, maintenir cette chaleur humaine avec mes grands-parents.
Tu sens que dans ta vie, après, d'étudiant, jeune adulte, on a toujours ce geste un petit peu de s'évader, entre guillemets, oui. D'aller vers sa vie, de faire ses choses. Et tu sens que tu les as un petit peu délaissés à ce moment-là. Tu fais ce reproche-là.
Alors, oui, mais je me dis que c'est peut-être normal.
Je pense.
Bon, quand l'oiseau sort du nid, il ne revient pas. C'est bon. Et là, c'était un peu ça. Bon, je le voyais toujours avec plaisir. Et j'avais avec ma grand-mère bon, un lien d'affection énorme. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a aimé énormément. Et mon grand-père aussi.
Tu as des souvenirs comme ça de mots d'amour, de gestes de tendresse, de preuves d'amour ou c'est de quelle
mots,
manière
pas des mots. Par exemple, une fois, j'étais chez un copain et j'étais pas loin de la maison. J'étais à 500 mètres de la maison. J'avais dit que je rentrais à telle heure et je n'étais pas rentré. Et j'ai retrouvé ma mère sur la route qui venait à ma rencontre et m'a fichu une claque maison. Et après, elle s'est excusée. Elle m'a dit « J'ai eu très peur. » Tu vois, c'est ce genre de tendresse-là. Quoi.
Oui, souvent, c'est l'inquiétude qui révèle un attachement, un amour. Ouais.
Et c'est la seule claque que j'ai eue de ma vie. Hein. Je n'ai jamais eu de claque autrement.
En tout cas, tes grands-parents, Ernestine, t'as reçu de l'amour, t'as reçu quelque chose de tout ça qui t'aimait. Un amour un peu rude, mais en tout cas, tu sais qu'il y avait ça, au fond.
Bah, c'était rude, oui. Alors, mon grand-père, qui avait fait la guerre...
Sur ce geste, hein. Voilà, je parle du geste, pas globalement.
Ils étaient assez rustiques, finalement, parce que bon, mon grand-père avait fait les deux guerres. On racontait que pendant la deuxième, donc, tout le monde allait aux abris, sauf lui. Quoi. Il continuait à travailler dans son jardin. Il disait, bon, ça, c'est du bricolage, quoi, en gros. Donc, il était très, très dur.
Ah, il y avait une résistance.
Ouais. Je pense qu'il en avait trop vu. Quoi. Et il avait une autorité silencieuse. Et j'ai rarement trouvé ça chez quelqu'un d'autre. Quand on était à table et que ça dégénérait avec mon cousin, par exemple, qu'on faisait un peu trop de bruit, il nous regardait, il avait les yeux très, très noirs, très perçants, il soulevait son béret, et alors là, c'était silence radio.
Ah, l'autorité par le petit geste, par le silence, il n'y a pas besoin de.
Il n'y avait pas besoin
chose.
De monter en tonalité. Hein. Tu vois, et ça, c'était. Je n'ai jamais retrouvé ça nulle part. Quoi. C'est... Peut-être que j'étais jeune.
Et avec Ernestine, il était aussi autoritaire ou comment était la relation?
Non, c'était un couple de l'époque, mais pas un couple de pouvoir. En fait, ils partageaient tout. Quoi. C'est, bon, il y en a un qui bêchait et l'autre vendait. Et ils étaient vraiment complémentaires.
Ouais, là, on peut parler de complémentarité par rapport à cette activité déjà. On a parlé d'Ernestine, ta grand-mère angevine. Il y a une deuxième grand-mère. Comment elle s'appelle? Où est-ce qu'elle habitait? Parle-nous d'elle un petit peu.
Alors, ma grand-mère de Bretagne s'appelait Marie-Louise.
Ça y est, on y vient à la Bretagne.
On vient à la Bretagne et mon grand-père s'appelait Jean-Baptiste. Donc, c'était ma grand-mère des vacances. Parce que à chaque fois que j'allais chez eux, c'était pour les vacances. Alors, c'était des expéditions au départ. Je pense me souvenir, mais je ne suis pas sûr, d'avoir fait Angers-Dinan en mobylette, sur le porte-bagages et les pieds dans les sacoches.
Avec le fameux Solex?
Non, avec une vraie mobylette, les bleus, quoi, les trucs. Je me souviens, je pense, mais je sais que mes parents ont fait...
Une épopée.
Oui, mes parents ont fait le trajet en vélo. Et ma mère m'a toujours dit qu'à l'arrivée, elle avait perdu 4 kilos.
Ah.
Elle avait quand même 180 kilomètres. Donc, ils partaient à 4h du matin, ils arrivaient là-bas, je ne sais pas, à pas d'heure. Quoi.
Ah oui, ils faisaient ça sur la journée.
Ah oui, ils faisaient ça sur la journée. Donc, c'était vraiment l'expédition. Et moi, je me retrouvais là-bas pour les vacances d'été, la plupart du temps.
Tu passais tes deux mois de vacances, je ne sais pas combien c'était à l'époque.
C'était 2 jours.
D'accord, ok. Tu allais passer quelques vacances.
Ouais. Et là, c'était autre chose.
Autant, un autre monde?
Oui, parce qu'à Angers, le jardin a été clos. Bon, il y avait des passages et tout ça. En Bretagne, c'était c'était l'infini, on pouvait aller où on voulait. Il y avait des champs, des fermes, c'était vraiment, on pouvait se perdre, c'est pas complètement différent. Et aussi, bon, un autre régime, parce qu'à Angers, on était en ville, même si on était un petit peu excentré, mais on était en ville, donc il y avait l'eau courante, le sol était carrelé, Chez mes grands-parents en Bretagne, il n'y en avait pas l'eau courante à l'époque. Le sol n'était pas carrelé, c'était un sol en terre battue. Et on faisait la cuisine dans une cheminée. Donc,
ah oui, là, on a l'image d'un autre,
un autre
univers.
Temps. Mais oui, c'était dans les années 50. Hein, donc,
Jackie, on va terminer cette discussion grand maternelle. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de partager ces souvenirs. Et je vais te laisser la main pour une lecture. On va terminer avec de la littérature, avec un texte comme on le fait d'habitude, qui a été choisi et qui sera lu par Jackie et Sierra, notre invité. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine.
C'est un texte que j'ai écrit pour cette émission. Et comme on a peu parlé de ma grand-mère paternelle bretonne, c'est un texte qui s'appelle Marie-Louise. J'allais pendant l'été une quinzaine de jours en Bretagne, chez mes grands-parents paternels. Le dépaysement était total. Imaginez une maison à toit de chaume et au sol en terre battue. Une porte double qui, si on y prenait garde, laissait passer une poule en quête de miettes. Pour dormir, il fallait escalader le lit et se glisser sous les dredons, subir son poids et sa chaleur. Mon terrain de jeu s'étendait presque à l'infini. Il n'y avait que deux pièces de vie et une réserve qui cultivait ses secrets en douce, notamment un garde-manger grillagé qui m'intriguait. La chambre comportait deux lits. La cuisine abritait le lit du couple. La pièce était vaste, avec deux armoires, un buffet et une table pour 10 couverts au moins. Un seau où on conservait l'eau potable. Une grande cheminée où pendaient des saucisses, où les braises entretenues attendaient une marmite ou la galettoire. Nous étions dans le pays gallo et on ignorait que ça se nommait bilic en breton. Le jour des galettes était jour de fête, sauf pour ma grand-mère qui passait plus d'une heure courbée au-dessus du foyer, les joues rouges et les cheveux collés sur le front. Dur labeur qu'à cette époque, je ne jugeais pas à sa juste valeur. Nous mangions les galettes sans vergogne, on en redemandait même le lendemain. Elle nourrissait la tablée de goinfres sans nous maudire. Ma grand-mère était une femme en gris, plutôt ronde, alors que son mari était sec comme un haricot. Elle dirigeait le couple, mon grand-père était fantasque et rencontrait des difficultés à faire payer ses heures de travail. Il bossait dans un atelier grange, où il fabriquait des semiers et des cercueils notamment, et me laissait toucher à ses outils. Un jour, je l'avais accompagné livrer un cercueil. On lui avait prêté une charrette et le cheval pour l'occasion. Il jurait quelquefois, souvent. Les curés ne faisaient pas partie de ses relations. Ma grand-mère était couturière. Elle travaillait chez elle ou chez les fermiers du coin, à la journée, comme on disait alors. On l'appelait aussi pour la cuisine lors des fêtes de famille ou les battages. Jamais entendu se plaindre. On allait chercher l'eau au puits. Elle m'emmenait au ruisseau quand elle lavait le linge. Une expédition. Je trottais derrière la brouette surchargée dans un chemin creux, sombre. C'était un moment de détente. J'essayais de capturer des têtards tandis qu'elle tapait sur les draps à coups de battoir. On étendait ceci sur une corde en plein vent. Ça faisait comme des voiles. Le champ qui jouxtait la maison leur appartenait. Chaque année, on récoltait le blé et c'était une animation particulière puisque tout se pratiquait à la faux. Qu'on rassemblait et liait les bottes à la main. J'étais chargé d'apporter dans une corne de vache l'eau et une pierre à aiguiser, et aussi de gérer les bouteilles de cidre. Ma grand-mère, ce jour-là, était, comme les autres jours, en cuisine. Je me demande aujourd'hui quand elle trouvait le temps de souffler, de s'amuser, de profiter de la vie. Je l'ai toujours vue, soit au fourneau, soit au ménage, soit à la lessive. Même pendant les festivités, elle travaillait pour les autres. Elle est décédée peu de temps après mon grand-père. Tous les deux n'avaient pas 70 ans.